RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui à Madagascar, au nord-est de la grande île, dans la vallée de la rivière Sambirane. On cultive là-bas l'un des meilleurs cacao au monde. Introduit il y a plusieurs dizaines d'années à Madagascar, les cacaoyers ont évolué isolés des autres variétés protégées par l'insularité. Et aujourd'hui, son goût, sa génétique, son terroir unique sont reconnus dans le monde entier. Toute la production du pays est d'ailleurs classée cacao fin par l'Organisation internationale du cacao. La production annuelle n'est que de 6 à 7 000 tonnes par an. On est bien loin des grands pays producteurs comme la Côte d'Ivoire et son 1,5 million de tonnes de cacao produites chaque année. Mais le potentiel qualité du cacao malgache lui permet de sortir du lot. Les plantations ont été délaissées un temps, mais quelques grandes firmes travaillent pour redorer le blason du cacao malgache depuis une vingtaine d'années. Il faut maintenant réguler la filière et aider les paysans à cultiver cette qualité. Le cacao fin de Madagascar, un grand reportage signé Jeanne Richard.
Bonjour, je m'appelle Christophe Berthelot Sampic, je suis maître chocolatier et fondateur d'Atelier C Paris.
Ici, on dit que le cacao de Madagascar c'est le meilleur au monde. Est-ce que c'est le meilleur au monde ?
Ben oui, je ne peux pas dire autrement. Je ne peux pas dire le contraire, mais honnêtement, ça fait partie pour moi, pour mon avis, des 5 meilleurs terroirs du monde. Dire que le cacao de Madagascar ou le chocolat de Madagascar est le meilleur du monde, c'est comme si vous disiez tel ou tel cru en France est le meilleur cru du monde. Il n'y a pas de meilleur cru, il y a des meilleurs crus.
Et alors, qu'est-ce qui fait sa spécificité ?
Alors, le cacao de Madagascar a cette particularité d'avoir été classifié cacao fin. Le cacao aromatique, c'est ce qu'on appelle aussi le cacao fin ou cacao supérieur. Et l'autre, à l'opposé, c'est le cacao standard. Le cacao standard, il n'a pas de notes aromatiques, il a une note de cacao brut. La biodiversité à Madagascar, on peut écrire ça en lettres majuscules.
Sous la colonisation française, c'est d'abord du criollo qui est importé, une variété de cacao rare et riche en saveurs. Plus tard, le cacao forastero fait son arrivée sur la grande île. Plus robuste et plus productif, il donne en général un cacao ordinaire. Puis des hybrides sont mis au point pour donner une troisième variété, le Trinitario, celle qui est désormais majoritaire dans les plantations malgaches. C'est dans le nord-ouest du pays, dans la vallée de la rivière Sambirane, autour de la ville d'Ambanz, qu'on trouve le gros de la production.
Je m'appelle Zafman, je suis employé à la cueillette du cacao. J'utilise cette gaffe. Vous voyez, c'est une longue perche pour attraper les cabosses qui sont tout là-haut. On en cueille entre 400 et 1000 chacun tous les jours, en fonction de la saison.
Comment est-ce qu'on reconnaît que la fève, elle est bien mûre, là ?
On le voit à leur couleur. Il faut qu'elle soit jaune-rouge. Ensuite, je les mets dans ces paniers pour les apporter aux femmes. C'est lourd. Oui, c'est lourd.
Bonjour. Moi, je m'appelle Zafav. J'ouvre les cabosses. Avec ma machette, je les casse et je sors les fèves. Je les mets sur ce tapis-là. Quand on a fini, on charge sur la charrette qui les transportera à l'usine. Les cueilleurs nous en apportent environ 5000 par jour et on trie. On jette les pourries ou celles qui ne sont pas très mûres. Regarde, celles-ci sont bien juteuses, elles sont bien mûres.
Ça fait longtemps que je fais ce travail, depuis que je suis en âge de travailler. Ça nous fait vivre, c'est important. Ici, de toute manière, tout le monde travaille dans le cacao. Mes enfants, ma mère, tous dans le cacao. Mon travail, je l'ai appris de mes aînés, c'est de mère en fille. Il faut être précis pour ne pas se blesser avec la machette et rapide pour que les fèves soient bien fraîches quand elles arrivent dans les bacs de fermentation.
Direction l'usine. Yvan Staub est le directeur d'Akessons Organic, l'un des trois gros producteurs et exportateurs de cacao fin de la région, avec les exploitations Milo et Mava.
Donc voilà, là c'est là que se passe la magie. Alors donc c'est la fermentation, hein, c'est le processus obligé pour que les fèves de cacao puissent acquérir les précurseurs de l'arôme chocolat. Donc on a ici, on a des séries de 4 caisses en cascade. Donc quand les fèves arrivent des champs, le premier jour, on place dans cette première caisse. Elles vont rester 2 jours. Là, on a une fermentation alcoolique. Donc au bout de 2 jours, la porte, le fond de la caisse se soulève. Et on fait basculer les fèves dans la caisse inférieure. Donc dans les 3 dernières caisses, là, on a une fermentation acétique qu'on recherche. Et voilà, au bout de 6 jours, on va démarrer ensuite le séchage.
Alors, une fois que les fèves ont fermenté, vous allez ensuite les faire sécher.
Voilà, on va les faire sécher. Donc le meilleur séchage, c'est le séchage solaire.
Mon travail, c'est chef d'équipe. Je m'appelle Marie-Madeleine, je suis employée à l'usine. Ici, on s'occupe de la préparation des fèves, du début jusqu'à la fin.
Brigitte,
tu es où ? Venez, vous deux. Simon, rejoins-le. C'est important de récupérer tout le cacao, de bien tout ramasser et de tout nettoyer. Si c'est sale, la production sera perdue. Là, on est sur l'aire cimentée. Il faut sortir le cacao des cuves de fermentation et bien l'étaler avec le râteau et le remuer souvent. Il lui faut du soleil et donc on le sort le plus tôt possible, dès 6 heures du matin, pour qu'il soit bien sec. On sort environ 1 tonne de cacao bio par jour et entre 800 et 900 kilos de cacao conventionnel. Parfois, on peut même aller jusqu'à 2 tonnes de cacao bio par jour.
Par jour, récolte, par jour.
Pendant plusieurs jours, les fèves sont transportées des aires cimentées où la chaleur est intense, à de longs tiroirs qui passent à volonté de l'ombre à la lumière pour un séchage plus doux.
Je m'appelle Rita Soa. Moi, je suis affectée au triage. D'abord, je passe les fèves au tamis pour enlever les résidus de poudre. Puis on les trie une à une. On enlève les fèves brisées ou ridées ou celles qui sont trop plates. Il ne faut pas qu'on envoie ça à l'étranger. Le directeur passe souvent ici. Et s'il trouve des fèves abîmées, on doit tout recommencer.
Notre premier facteur, c'est la qualité. On fournit les tout meilleurs chocolatiers à travers le monde, en Europe, aux États-Unis, au Japon. Et on cherche vraiment à faire le top du top. Donc là, on a un lot de 195 sacs qui va quitter la plantation lundi pour être empoté à Diego et qui va partir aux États-Unis. Alors, en fait, quand ça commence à sonner un peu les fèves quand elles s'entrechoquent et qu'elles font un son qui teinte un petit peu, c'est que ça commence à être suffisamment sec. Après, nos principaux ennemis sont les zébus. En fait, si les zébus divaguent dans les plantations, non seulement ils sont friands des cabosses, mais aussi, il faut imaginer, vous avez vu un cacaoyer couvert de fleurs sur le tronc, il faut s'imaginer un zébu qui se gratte sur un tronc de cacaoyer. Là, il nous fait perdre beaucoup de récoltes. Donc on a des gardiens de plantation qui circulent et qui, quand il y a des zébus qui divaguent, les amènent à la fourrière. Et l'autre ennemi, c'est les voleurs, le vol de récolte sur pied. Ça, c'est un grand souci. On milite depuis des années pour la mise en place de marchés contrôlés, donc avec un système, des carnets de planteurs. Déjà, la moindre des choses, c'est que quelqu'un qui n'est pas planteur de cacao ne puisse pas vendre de fèves, ce qui n'est pas encore le cas. Voilà, d'avoir un peu une traçabilité de la filière, savoir d'où viennent les fèves qui sont vendues. Nous, c'est très dur d'estimer la quantité de vols, parce qu'on ne connaît que ceux qu'on attrape. Mais on voit un peu des parcelles qu'on avait programmées à la récolte. Et puis quand on arrive, il n'y a plus les cabosses qu'on espérait récolter. On pense 10-15% de la production qui serait volée.
Je suis gardien, je m'appelle Francis Tongazara. On est en binôme. On commence le travail à 6h du soir et on termine à 6h le lendemain matin. On fait 2 fois le tour des parcelles dans la nuit. On surveille tout ce qui se passe, les zébus comme les voleurs.
Et vous êtes armé ?
Ah oui, on a des machettes pour se protéger. On les utilise si on se fait attaquer. Et puis on a des lampes torches aussi. Mais on ne les allume pas lors des tournées dans les cacaoyers. C'est pour pas que les voleurs nous voient. Il y a souvent des voleurs. C'est au bruit qu'on les repère, au bruit des feuilles mortes. Ou alors on voit la lumière s'ils ont des lampes.
Je suis gardien aussi, je m'appelle Zafisou Benzara. Quand on attrape un voleur, une fois on l'amène aux autorités, mais s'il revient deux ou trois fois, on le tabasse en plus. On lui donne des coups de bâton, et s'il n'en veut pas, il n'a qu'à pas revenir. La dernière fois, c'était quand, le mois dernier, quand on les a vus, on s'est cachés. Les voleurs ont commencé à cueillir les cabosses. On est resté dans notre cachette et quand ils sont passés à côté de nous, on a sauté sur eux. On en a attrapé un et on l'a amené aux gendarmes. Ils étaient cinq ou six, mais on n'en a eu qu'un.
Chaque semaine, deux à trois voleurs sont conduits à la gendarmerie d'Ambange. Beaucoup plus pendant la pleine saison. Dans la vallée du Sambirane, tout le monde cultive du cacao et tout le monde vole du cacao. Les paysans, les voisins, les familles entre elles, parfois par jalousie ou parfois à cause de la pauvreté. Loin des grands établissements, dans le petit village d'Anzavmilei, Roger Bana est fier de montrer son terrain. Un hectare pour ses cacaoyers, caféiers et ses plants de vanille.
Je suis né en 1940 et ça fait 30 ans que je cultive du cacao. Regardez comme il est beau. Ce qu'il faut, c'est mettre du fumier de zébu.
Yo.
Est-ce qu'il y a des problèmes de vol de fèves ici?
Misfa, easy.
Oui, il y en a, mais on a engagé un gardien il y a 3 ans. Il surveille jour et nuit et les vols ont diminué. Aujourd'hui, je gagne environ 8 millions d'ariari par an, avec le cacao, soit plus de 2000 euros. On a fait beaucoup d'efforts. Depuis 2004, j'ai rejoint une association de paysans, l'ADAPS. C'est une coopérative pour faciliter l'exportation des produits agricoles. On a fait ça pour se protéger, parce que les collectionneurs traditionnels nous arnaquent trop. Ils nous achètent 1000 ariari le kilo, alors qu'à la coopérative, c'est au moins 3 fois plus.
Le système de collecte, l'autre grande difficulté pour les petits producteurs. Des collecteurs viennent chercher des fèves dans les villages reculés pour les revendre à des exportateurs en ville. La plupart du temps malhonnêtes, ils représentent pourtant la seule possibilité d'écouler les fèves pour les paysans. Des alternatives peinent à voir le jour. L'ADAPS, l'Association pour le développement de l'agriculture et du paysanat du Sambirano, en est une. La coopérative a été créée en 2010 à l'initiative de 15 producteurs. Ils sont aujourd'hui 350 et revendent notamment leur cacao certifié bio dans le circuit du commerce équitable en France, en évitant les intermédiaires sans scrupules. Mais l'initiative reste marginale.
Nous avons essayé de convaincre plus de paysans. Nous sommes nombreux à cultiver le cacao, mais on ne peut pas les obliger à adhérer à l'association. Certains ne recherchent pas les avantages financiers. Ils sont contents simplement s'ils arrivent à résoudre leurs problèmes quotidiens. Et s'ils ont des problèmes de nourriture, les collecteurs peuvent leur en donner. C'est la grande force des collecteurs, car notre grand souci à nous, les paysans, c'est de pouvoir avoir assez de riz. Ce que l'État peut faire pour nous, nous rémunérer, justement.
C'est le jour du marché du cacao. Je suis venu vendre le mien. J'attends les collecteurs. Comme je n'ai pas beaucoup de production, je n'ai pas le choix. Je vends aux collecteurs, ça me suffit pour les besoins quotidiens. J'achète du savon ou de l'essence. Moi, je fais juste comme tout le monde.
6 kilos.
Je fais le tour des marchés. Chaque village a son jour de marché pour le cacao. J'installe ma balance et les paysans me livrent leurs fèves fraîches. S'il y a des collecteurs qui trichent, oui, il y en a. Chacun sa façon de travailler. Mais ce n'est pas tout le monde. Moi, je ne suis pas comme ça.
Le système de collecte, avec tous ses maillons et intermédiaires, permet de faire vivre un grand nombre de personnes dans la région. Mais peu soucieux de la qualité des fèves, pourries ou pas assez mûres, fixant des prix trop bas pour permettre aux paysans de tirer un juste revenu pour leurs produits, les collecteurs empêchent aussi de développer le marché haut de gamme. Frédéric Descroix, agronome et chercheur au CIRAD.
sur Ambange, donc dans la région du San Birano, le long du fleuve, on a un potentiel à peu près de 10 000 hectares, dont on peut estimer aujourd'hui 6 à 7 000 plantés en verger, avec des productivités très variées, mais en fonction des structures agricoles qui les exploitent. Mais globalement, avec un potentiel, j'ai toujours tendance à penser non pas supérieur, mais d'excellence.
Les failles de la filière cacao, Sylvia Pagès, directeur général du commerce extérieur au ministère du Commerce et de la Consommation, en a bien conscience. Mais si les autorités veulent miser sur le potentiel qualité pour ce marché de niche, le chemin est encore long avant de redonner ses lettres de noblesse au cacao malgache.
Une niche, c'est bien beau, mais Madagascar doit aller plus loin que la niche, c'est-à-dire que c'est plus une évolution où on doit aller, c'est une révolution carrément, c'est un changement de mentalité. Et Madagascar et les Malgaches ont un savoir-faire qui doivent vraiment valoriser. Nous prévoyons aussi en fait, de mettre en place un futur laboratoire spécial pour le cacao dans la région. Et donc c'est pour vraiment être sûr que nous allons exporter une bonne qualité de cacao. Donc vraiment, on a une richesse au niveau des matières premières qu'on doit vraiment exploiter. Et je pense que tout ce qui est produit de rente ou des produits agricoles, on a de quoi faire à Madagascar.
Le cacao fin de Madagascar, un grand reportage de Jeanne Richard. Réalisation Mathieu Salabert.
Bonjour Jeanne Richard. Madagascar, c'est un pays très pauvre. 9 personnes sur 10 vivent en dessous du seuil de pauvreté avec moins d'1,50€ par jour. Le cacao, donc, ça représente une chance pour les paysans de la région du Sambiran.
C'est vrai qu'avec l'arrivée de nouveaux consommateurs qui accèdent au marché du luxe, notamment les Chinois qui recherchent de plus en plus de chocolat haut de gamme, le cacao fin a vraiment de beaux jours devant lui. Il n'y a que 10 pays au monde dont la production est entièrement reconnue cacao fin par l'ICCO, l'Organisation internationale du cacao, dont Madagascar. Alors ce cacao aromatique est donc plus rare, du coup sur le marché international, il se négocie plus cher que le cacao ordinaire. Dans le cas de Madagascar, le pays vend le plus gros de sa production à des fabricants de chocolat standard, comme le groupe Nestlé, qui l'utilise comme améliorateur, c'est-à-dire qu'ils en ajoutent un peu à leur préparation pour leur donner un goût plus élaboré. Donc oui, le cacao fin de Madagascar est un produit à forte valeur ajoutée, mais encore faut-il que les petits paysans en profitent.
Oui, car c'est ce problème de vol incessant et ce système de collecte qui plombe le secteur.
Oui, les paysans perdent beaucoup à cause des vols et aussi à cause des prix trop bas fixés par les collecteurs. Mais du coup, ils ne s'embarrassent pas de faire un travail soigné. Et dans les seaux des collecteurs, on trouve des cabosses vertes ou pourries. Il faut dire aussi que pour les collecteurs, cela ne change rien, car ils peuvent vendre à des exportateurs qui ne cherchent pas spécialement la qualité, mais qui jouent simplement sur la renommée du cacao malgache pour vendre les marchandises à l'étranger. Un grand producteur me disait qu'il estime qu'il n'y a que 1/6 de la production malgache qui soit vraiment haut de gamme. Donc c'est un cercle vicieux et la mise en place d'une vraie politique économique est nécessaire avec une structuration de la filière si Madagascar veut jouer sa carte et exister face aux gros pays producteurs comme la Côte d'Ivoire. Et les projets de label cacao d'exception, la mise en place d'un laboratoire de contrôle qualité ou du Conseil national du cacao sont en négociation en fait depuis longtemps et malgré les promesses, ils tardent à être mis en place.
Et alors pourquoi ne pas développer aussi la production et étendre la zone de plantation ?
Il y a effectivement des exploitations qui se développent dans l'est de Madagascar à l'initiative d'industriels. C'est une possibilité intéressante, mais c'est vraiment le terroir Sambirano qui fait la renommée du cacao malgache. Et le risque, c'est de faire une production avec une autre qualité qui nuirait à cette réputation. Les autorités préfèrent se concentrer d'abord sur ce qui existe déjà dans le Sambirano. Un projet de la Banque mondiale, par exemple, est d'y replanter 200 000 cacaoyers sélectionnés pour remplacer ceux qui sont trop vieux. Et puis, il y a aussi le problème du changement climatique qui se pose de plus en plus. Les périodes de sécheresse s'allongent. Il va peut-être falloir penser à investir dans l'installation de systèmes d'irrigation.
Le cacao fin de Madagascar, votre grand reportage, Jeanne Richard, à retrouver, à réécouter sur RFI.fr. Littérature.